Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au menu de l'actualité ce matin, une première brèche ouverte dans les ordonnances. Macron, les routiers ont remporté leur bras de fer face au gouvernement. Après 2 semaines de mobilisation, la profession a obtenu gain de cause hier soir sur la question des primes que les routiers craignaient de voir disparaître avec les nouvelles ordonnances du Code du travail. Brèche dans les ordonnances, accroc également dans la communication du président, le chef de l'État, pris en flagrant délit hier par des micros indiscrets en train d'accuser des salariés, je cite, de foutre le bordel. On vous raconte l'histoire dans un instant. Au programme également, la réponse du président catalan au roi d'Espagne et toujours pas de sortie de crise. L'Irlande poursuivie en justice par l'Union européenne pour sa stratégie d'avantages fiscaux accordés aux multinationales. Le procès Mera qui peine à examiner les accusés présents dans le box. Amnesty qui demande à la France d'arrêter d'expulser les Afghans. Et puis à 8h20, une matinale spéciale ce matin, Nicolas, avec un écrivain qui parle peu mais dont les livres sont à chaque fois de grands succès de librairie.
Oui, à 8h20, Jean-Marie Gustave Leclésio sera mon invité pour son nouveau livre Alma aux éditions Gallimard. On parlera littérature avec vous à partir de 8h40. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Et on terminera avec une exposition en hommage à René Goscinny, fou de bande dessinée mais aussi de cinéma. Elles étaient censées être le marqueur du quinquennat. Les ordonnances réformant le Code du travail connaissent donc déjà leur premier accroc. Le gouvernement a fini par céder devant les routiers mobilisés depuis 2 semaines. Un premier recul du gouvernement sur ce dossier crucial. Hier soir, après plusieurs heures de discussion entre le patronat et les syndicats du secteur, le gouvernement a donc validé un accord avec la profession. Les routiers craignaient que les ordonnances Macron ne remettent en cause leurs avantages acquis de longue date. Résultat, ils ont gagné sur toute la ligne. Satisfaction des syndicats qui appellent à la fin des blocages. Écoutez Thierry Douin, président de la Fédération des Transports CFTC.
Les entreprises ne pourront pas y déroger. Ça sera les minima sociaux et les minima sociaux purs et durs. Plus personne ne pourra déroger aux négociations collectives nationales qu'on a depuis de nombreuses années. Nous demandons à lever toutes ces manifestations ou mouvements qui auraient pu être prévus le 10 octobre, puisque les revendications de départ ont été répondues à 100%. Et on n'a plus aucune raison de rentrer dans un conflit.
Thierry Douin de la CFTC avec Mathilde Dehimy. Bonjour Michael Thébault.
Bonjour Sébastien.
Alors qu'est-ce qu'ont obtenu exactement les routiers?
C'est simple, vous l'avez dit, ils ont quasiment obtenu tout ce qu'ils réclamaient, en tout cas l'essentiel à leurs yeux, la sanctuarisation des annexes de rémunération. Autrement dit, pas touche aux primes. Le 13e mois est donc désormais garanti, tout comme les primes d'ancienneté, le maintien des heures de nuit, des compensations pour les jours fériés, pour les dimanches. Garantit aussi le maintien des frais de déplacement. Placement, repas, hébergement, des rémunérations qui peuvent représenter jusqu'à 20% de la paye d'un chauffeur routier. Elles étaient jusqu'à présent garanties par les conventions collectives, mais avec les ordonnances, elles seraient devenues négociables entreprise par entreprise, donc possiblement revues à la baisse, voire supprimées. Ce ne sera pas le cas.
Alors avec cet accord, le gouvernement prend quand même le risque d'être accusé de reculade.
Ah, évidemment, mais vous en doutez, il s'en défend déjà. Dans un communiqué commun, les ministres Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne saluent un accord qui, je cite, « respecte l'esprit des ordonnances, l'esprit, un texte qui permet de lever les dernières inquiétudes de la profession, disent les ministres. Reste que c'est bel et bien une première brèche dans les ordonnances, un précédent qui pourrait s'avérer politiquement très dangereux, car réaffirmer la primauté de la branche, c'est de facto casser cet esprit de la réforme. Est-ce qu'ont obtenu les routiers? D'autres pourraient aussi chercher à l'obtenir, au nom, là encore, tout simplement, de la spécificité de leur profession.
Michael Thébault, chef du service économique et social de France Inter. Emmanuel Macron espérait sortir des accusations de président des riches, c'est encore raté. Après ses propos ambigus sur les fainéants, nouveau dérapage verbal du président en visite hier dans le sud-ouest. Le président a donc laissé échapper une petite phrase explosive que les caméras ont saisie malgré lui. Le chef de l'État semblait suggérer à certains salariés qu'il ferait mieux d'aller chercher du travail, plutôt, je cite, que de foutre le bordel. Or, au même moment, des salariés de GMS manifestaient à quelques centaines de mètres de là. Décryptage de Julie-Marie Lecomte qui a assisté à toute la scène.
Sur son compte Twitter, le porte-parole de l'Élysée a d'abord dénoncé une citation tronquée, la voici donc en entier.
Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire, hein, et c'est pas loin de chez eux.
Pour les témoins, il n'y a pas de doute, Emmanuel Macron ciblait les manifestants de GMS. L'entourage du président plaide qu'il visait plus globalement ceux qui ne veulent pas avancer, ne cherchent pas de solution, préfèrent le chaos, alors que lui renvoie la responsabilité de chacun. C'est justement pour aider les travailleurs licenciés qu'il veut lancer la réforme de la formation professionnelle. Il a le sentiment de se démener pour trouver des solutions, décrypte un familier qui souligne qu'il avait proposé un rendez-vous avec Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Les GMS ont refusé. Il est déçu de voir que les gens manifestent de manière agressive, suggère le même. Mais l'opposition se dit outrée, dénonce le mépris du locataire de l'Élysée. Même Alain Rousset, le président de région socialiste rallié, est gêné.
Il y a une expérience de terrain. Sûrement, faut-il faire attention aux formules que l'on prononce.
Pourtant, Emmanuel Macron assume sa franchise, c'est sa marque, il est direct, c'est son style et cela permet d'avancer, dit un conseiller. Un proche confesse toutefois qu'il avait probablement oublié qu'il était filmé.
Je lis Marie Lecomte, il n'en fallait pas plus pour enflammer les comptes Twitter de l'opposition. Mépris de classe pour l'insoumise Clémentine Autain. Le vrai bordel, ce sont ses ordonnances, écrit pour sa part le socialiste Luc Carvounas. Et puis, dans la série, les élus locaux se rebiffent contre le chef de l'État, mais avec le sourire. Un petit maire de Meurthe-et-Moselle estime avoir perdu 30% des subsides de l'État en 10 ans. Il a donc réduit d'un tiers la photo officielle du président dans son bureau.
France Inter 8h06, Madrid, Barcelone, une voie toujours sans issue.
Oui, nouvel épisode hier soir dans la guerre des déclarations. Après la déloyauté, je cite, des séparatistes dénoncés par le roi. Réponse donc du président catalan Carles Puigdemont qui accuse Felipe VI d'avoir, je cite, délibérément ignoré des millions de Catalans. Hier, Puigdemont a de nouveau réitéré sa demande de médiation internationale, médiation rejetée par Madrid. Notre reporter Yann Gallic a suivi ce discours dans un café de Barcelone.
Ils sont quelques dizaines réunis dans un bar, des indépendantistes pour la plupart. Les yeux rivés sur l'écran de télévision, ils écoutent en silence la déclaration du président catalan. Des paroles d'apaisement, mais aussi de défiance. Carles Puigdemont s'en prend au roi d'Espagne qui lui reprochait la veille d'avoir bafoué la démocratie.
Je voudrais m'adresser directement à Sa Majesté. Par votre discours, vous avez déçu beaucoup de gens en Catalogne qui vous appréciaient, des gens qui attendaient de vous une parole de dialogue et de paix.
Le président catalan lance malgré tout un appel au calme, un discours apprécié chez les indépendantistes de gauche comme Anna.
Au-delà du dialogue, il a demandé de la médiation. Ce que nous voulons, c'est une médiation internationale, que la communauté européenne réagisse. Mais je crois que ce sont des espoirs déçus et que ça n'arrivera pas.
Professeur dans un collège, Alex n'est pas favorable à l'indépendance. Carles Puigdemont ne fait que nourrir son inquiétude quant à l'avenir de la Catalogne.
Il a dit, entre les lignes, que l'indépendance serait déclarée dans les prochains jours. C'est donc un pas de plus vers l'inconnu.
Hier soir, Carles Puigdemont a préféré jouer une partition modérée tout en maintenant le cap. Le Parlement catalan pourrait proclamer l'indépendance dès lundi prochain. À Barcelone, Yann Gallic, France Inter.
Prochaine étape lundi, en effet, avec la réunion plénière du Parlement catalan. La crise catalane, un dossier retrouvé sur notre site franceinter.fr. Aux États-Unis, toujours rien qui permette d'expliquer le massacre de Las Vegas. La compagne du tueur Marie-Lou Dunley dit avoir tout ignoré du projet de Stéphane Paddock. À Bruxelles, la croisade de la Commission européenne contre les avantages fiscaux des multinationales a fait une nouvelle victime hier après Fiat, Starbucks ou Apple. C'est au tour d'Amazon. Amazon qui se voit réclamer 250 millions d'euros pour avoir négocié un arrangement fiscal avec le Luxembourg. La Commission qui par ailleurs ne lâche rien sur le dossier Apple. L'exécutif européen demande aux géants américains de s'acquitter de 13 milliards d'euros d'impôts auprès de l'Irlande. Mais l'Irlande n'en veut pas, craignant de tuer la poule aux œufs d'or. Nouveau coup de pression donc hier de Bruxelles qui attaque l'Irlande en justice devant la Cour européenne. Une stratégie qui aura toutefois bien du mal à aboutir pour ce spécialiste de la fiscalité, Éric Vernier.
La Commission européenne somme l'Irlande à réclamer les 13 milliards. Pour l'Irlande, c'est son fonds de commerce. Faire du dumping fiscal, d'avoir des arrangements pour que les sociétés payent le moins possible. Et si jamais l'Irlande commence à réclamer ce qui lui est dû, le risque, dans un premier temps, c'est qu'il y ait du chantage à l'emploi et à l'installation, c'est-à-dire que ces entreprises disent « si vous nous embêtez, on s'en va ». Et deuxièmement, l'Irlande va utiliser toutes les procédures qu'elle peut utiliser pour effectivement ne pas ennuyer ses clients. On peut estimer que la Commission européenne peut avoir quelques arguments pour pousser l'Irlande à avoir un comportement plus rationnel. nouvelle et plus normalisée. Maintenant, de là à ce que la Commission européenne aille jusqu'au bout et aille jusqu'à des sanctions, jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose venir. Donc, de ce côté-là, je pense que l'Irlande peut encore dormir tranquille.
C'est un combat plus modeste, on vous en parlait hier matin à 7h. Des salariés sans papier chargés du nettoyage des Burger King ont occupé brièvement le restaurant de République à Paris, dénonçant de conditions de travail dangereuses et des salaires de misère. Toutes leurs revendications ont été acceptées, notamment leur demande de régularisation administrative.
8h10, direction le palais de justice de Paris avec le procès Merah qui a bien du mal à tenir le cap.
Oui, ce devait être le procès de Mohamed Merah, des complices pardon de Mohamed Merah, le procès notamment de son frère Abdelkader, notamment accusé d'avoir matériellement aidé son petit frère dans sa funeste entreprise. Et pourtant, chaque jour, c'est un peu comme si les magistrats faisaient d'abord le procès des meurtres de Merah plus que de ses acolytes. Le reportage tout de suite de notre spécialiste police justice.
Il y a cet enquêteur venu témoigner anonymement de la traque de Mohamed Merah, cet autre officier de police judiciaire qui raconte les scènes de crime, les munitions retrouvées jusqu'au corps du terroriste tué dans l'assaut du raid, ou encore cette femme qui a accepté d'héberger Mohamed Merah avant de découvrir qu'il ne faisait qu'un avec le tueur au scooter et de se précipiter au commissariat. Autant de témoins qui se succèdent sans même évoquer Abdelkader Merah, frère aîné du tueur et surtout principal accusé de cette audience. Alors, de qui fait-on vraiment le procès, s'agace maître Éric Dupont-Moretti, avocat d'Abdelkader Merah.
Il y a deux questions dans ce procès. Est-ce que Abdelkader Merah est coupable et est-ce que l'on a rapporté des preuves de sa culpabilité? C'est la première question, elle est classique. La deuxième question, c'est lorsque l'on est désigné comme étant un terroriste, est-ce que l'on bénéficie encore des règles qui sont celles dont bénéficient tous les justiciables?
Les témoignages attendus ce matin des médecins légistes chargés des autopsies des sept victimes et de Mohamed Merah lui-même ne devraient là non plus pas vraiment permettre d'éclairer la cour sur la culpabilité ou non des deux accusés.
Cesare Battisti est à nouveau rattrapé par la justice. Le romancier italien, ancien militant d'extrême gauche, poursuivi par la justice italienne pour des assassinats commis pendant les années de plomb, les années 70. Le romancier donc a été interpellé hier à la frontière brésilienne avec plusieurs milliers de dollars et d'euros sur lui en direction, semble-t-il, de la Bolivie voisine. La justice brésilienne a récemment relancé la procédure d'extradition contre lui. L'ONG Amnesty International demande à la France un moratoire sur les expulsions d'Afghans. Selon un rapport de l'ONG publié aujourd'hui, le nombre d'Afghans renvoyés dans leur pays a en effet triplé entre 2015 et 2016. Or, pour Amnesty, les renvoyer dans leur pays, c'est une infraction au droit international et cela risque en clair de mettre leur vie en danger. Le reportage de Sébastien Sabiron.
Cheveux bouclés, courte barbe, Farad raconte son histoire posément. Menacé de mort par les talibans pour avoir travaillé avec les Nations Unies, le jeune homme quitte l'Afghanistan en 2015 à 22 ans, la Norvège, l'Allemagne puis la France, d'un centre de rétention à l'autre.
Il y a de la place pour vivre dans les centres de rétention, mais même si on vous met dans une cage doré, une cage reste une cage. On essaie de sauver nos vies, on essaie de vivre paisiblement et ils veulent nous renvoyer au point de départ.
Depuis son arrivée en France, Farad a subi deux tentatives d'embarquement forcé. Il a résisté.
La deuxième fois, c'était très dur. J'étais menotté aux pieds et aux poignets. Je portais un casque de boxe. J'ai demandé de l'aide aux passagers. La police m'a dit, si tu hausses le ton, si tu te débats, on va te battre très fort.
Farad sera débarqué sur demande du pilote, puis remis en liberté sur décision d'un juge. Sa demande d'asile est en cours. Pour Cécile Coudriou, vice-présidente d'Amnesty France, ces renvois forcés violent le droit international.
Pour vous donner quelques exemples, il n'y a pas simplement le fait d'être dans un pays en guerre. Il y a également des personnes qui sont d'une orientation sexuelle qui n'est pas admise par l'islam. Il y a des personnes dont la famille a déjà été menacée par les talibans ou par l'État islamique. Ce sont des personnes qui vraiment risquent la torture, des enlèvements. On ne peut pas refouler quelqu'un vers un pays à ce point dangereux.
Amnesty International réclame un moratoire sur les expulsions et un recours moins systématique à la rétention.
Le reportage de Sébastien Sabiron. Un mot de sport et une information. France Inter, l'élection à la présidence du comité olympique et sportif français devant la justice aujourd'hui. Un recours en annulation a été déposé, va être déposé devant la juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par Isabelle Lamour, candidate malheureuse, qui soupçonne l'actuel président du CNOSF, Denis Masséglia, d'avoir usé de moyens illégaux pour remporter l'élection. On termine avec cet hommage rendu à un immense scénariste de bande dessinée, René Goscinny. Ça vous rappellera des souvenirs, j'imagine, Nicolas, Astérix, beaucoup, ouais. Lucky Luke ou le petit Nicolas d'ailleurs, c'était lui. Goscinny fait l'objet d'une grande exposition à la Cinémathèque car ce qu'on sait moins, c'est qu'il était également fou de cinéma. Mathieu Culeron.
Quand l'appétit va, tout va.
D'Astérix et Obélix en passant par Lucky Luke jusqu'au petit Nicolas, René Goscinny n'aura jamais été aussi vivant au XXIe siècle. Cette exposition nous montre des croquis, des dessins, des caricatures, une véritable épopée, une histoire qui commence lorsque le petit René va voir le premier Walt Disney avec son père. Frédéric Bonneau est directeur de la Cinémathèque.
C'est un éblouissement, mais vraiment un éblouissement, mais un éblouissement tel que cet éblouissement persistera toute sa vie, puisque c'est à cause de cette première vision de Blanche-Neige et des Sept Nains que René Goscinny, presque 40 ans plus tard, va créer les studios Idéfix. Le cinéma, pour lui, c'est bel et bien une idée fixe.
René Goscinny est aussi obsédé par les films de John Ford, les grands westerns, les péplums aussi. Et selon sa fille Anne Goscinny, René se destinait au cinéma.
Je suis convaincue que si mon père avait vécu, sa deuxième vie aurait été consacrée au cinéma. C'était quelqu'un qui dessinait très bien d'abord, qui écrivait mieux encore, mais qui pensait ses découpages, qui pensait ses bandes dessinées, qui pensait cinéma.
Goscinny et le cinéma, une exposition qui rend hommage aux grands scénaristes, mais aussi aux cinéphiles passionnés qu'était René Goscinny.
J'aime ton nez mignon, j'aime aussi...
Goscinny et le cinéma depuis hier jusqu'au 4 mars, une exposition à la Cinémathèque en partenariat avec France Inter.
J'aime votre nez mignon, Sébastien Legénie, merci beaucoup.